9h21 minutes, elle est ministre de la Justice, responsable des relations canadiennes et de la francophonie, ministre responsable de la condition féminine et aussi députée de Champlain. Sonia Lebel, bonjour.
Bonjour.
Ça fait beaucoup de portefeuilles, ça.
Effectivement, effectivement. On va tous les gérer adéquatement, à la fois.
Là, je ne vous demanderai pas, je l'ai dit à la blague tantôt, qu'est-ce que vous pensez du nouveau ministre fédéral de la Justice, M. Lametti, qui vient d'être nommé, mais c'est un peu trop chaud.
C'est un peu trop chaud, oui. On va peut-être commencer par le rencontrer, le saluer. À tout le moins, je vais profiter de votre tribune pour le féliciter officiellement. Je vais lui loger un appel pour le faire de façon plus formelle. Mais effectivement, on aura sûrement des choses à discuter, lui et moi, dans le futur.
On va commencer par les dossiers. Vous avez une rencontre cet après-midi avec vos collègues des autres partis concernant l'idée lancée par Véronique Yvon, entre autres, là, de créer cette espèce de tribunal, une nouvelle approche en matière de crimes sexuels. Qu'est-ce que vous avez à leur proposer? Je ne veux pas devancer le meeting, là, mais vous allez vers quoi? C'est pour en jaser ou c'est plus concret que ça?
Bien, pour l'instant, c'est pour en jaser parce qu'effectivement, j'en suis à faire le tour de la question. Madame Yvon particulièrement a émis cette proposition-là à travers les médias. Puis moi, je voulais pas avoir une conversation médiatique avec mes homologues. Madame David s'est montrée intéressée. Madame Labrie également. Ce sont des femmes qui sont motivées, qui sont intéressées comme moi. Puis on est toutes d'accord, toutes les quatre, que c'est un enjeu qui doit dépasser la partisanerie. Ceci étant dit, c'est vraiment là pour voir qu'est-ce qu'elles ont à proposer. Parce que derrière la proposition d'un tribunal pour les agressions sexuelles se cache des objectifs. Hein? Puis moi, je suis une personne d'objectifs, atteindre des buts. Et provenant moi-même du milieu juridique, du milieu criminel de façon plus particulière, je sais que le diable est dans les détails et je sais que l'application, c'est quelquefois de la théorie, d'une bonne idée au terrain, ben c'est là qu'on perd l'efficacité.
Et je suis... Non, mais par exemple, si on veut être très concret, là, est-ce que selon vous, il faut modifier la preuve, la règle de preuve dans les cas d'agression sexuelle?
Non, je pense qu'on n'en est pas là. On ne peut pas modifier la règle de preuve dans le sens où on modifie la notion de présomption d'innocence, si c'est ce qu'on parle. Mais naturellement, si on parle de modifier la règle de la preuve et de modifier, je vais vous donner à titre d'exemple, le renversement du fardeau de la preuve, on parle du fédéral. Et moi, j'ai lancé le message à tout le monde que je veux qu'on regarde des solutions qui sont à l'intérieur de ma portée, de ma juridiction. Ce qui n'exclut pas, d'ailleurs, de travailler en parallèle avec le fédéral pour trouver d'autres solutions. Je vais vous donner un exemple.
Okay.
Je suis allée au mois de décembre, 2 ou 3 semaines avant la fin de l'année, il y avait la conférence fédérale provinciale territoriale des ministres de la Justice, entre autres. Il y a été mis sur la table par le fédéral la possibilité de faire en sorte que pour la nomination des juges, on inclut l'obligation formelle d'avoir suivi des formations en matière d'agression sexuelle. Comme vous le savez, bon, eux ils sont responsables de la nomination des juges de la Cour supérieure et pour être nommé juge de la Cour supérieure, présentement ce que ça prend c'est 10 ans de barreau. OK? Donc ils veulent inclure dans les critères de nomination, l'obligation d'avoir suivi des formations.
Mais ça, je comprends ça.
Mais ça peut faire partie des solutions.
Mais je vous donne un exemple. Je regardais les chiffres en fin de semaine sur les statistiques sur les agressions sexuelles. Et c'est comme un entonnoir. Mm-hmm. Jusqu'à un certain point, ça a du sens, mais bon, vous avez tant de plaintes sur lesquelles il y a un suivi, tant de plaintes sur lesquelles il y a arrestation, tant de plaintes où il y a finalement des accusations, puis en bout de ligne, des condamnations. C'est pas simple à prouver un cas d'agression sexuelle. C'est pas simple quand ça remonte à il y a plusieurs années. On peut comprendre que c'est difficile. Mais concrètement, comment vous pouvez changer l'approche? Voulez-vous qu'il y ait plus d'accusations, plus de condamnations?
Non, pas nécessairement. Puis vous avez dit le mot exact. Il faut changer l'approche. Une victime d'agression sexuelle, puis vous savez, je vais inclure les victimes de violences conjugales, donc je vais parler de victimes de violences faites aux femmes.
Okay.
Parce qu'il y a la notion psychologique qui se ressemble beaucoup derrière ça. Hein. Quand on parle d'agression sexuelle, là où souvent ça fait problème, c'est quand il y a l'agresseur est en position d'autorité, où on connaît son agresseur, où l'agresseur a un ascendant sur nous. OK, on va exclure, pas parce que... Et quand je le fais, c'est pas par mesure de gravité, je parle par mesure de notion psychologique, les agressions qui sont faites par des étrangers, où là, souvent, outre le trauma particulier de l'agression, il n'y a pas toute cette notion-là où la confiance a été également violée. Donc, quand on parle de violence faite aux femmes, dans les circonstances, que ce soit violence conjugale ou violence d'agression ou agression sexuelle de toutes sortes, il y a cette notion-là où il faut effectivement comprendre la psychologie derrière ça. Et je veux pas pousser nécessairement les femmes à porter... Non, je veux pas que ça soit mal compris ce que je dis là. Je veux pas augmenter le taux de plainte, mais ce qu'il faut comprendre quand on parle, je vais le dire de façon virtuelle, d'un tribunal pour les agressions sexuelles ou d'un système de justice adapté aux violences faites aux femmes, c'est qu'il faut comprendre que les parcours des femmes sont différents. Peut-être qu'une...
Mais là, ce que vous me dites, là, en d'autres termes, c'est que on va prioriser peut-être une nouvelle attitude, une nouvelle approche.
C'est ça.
Faire en sorte qu'on comprenne mieux les victimes, mais on changera pas les lois.
Non. En tout cas, c'est pas l'objectif à court terme parce que, premièrement, c'est hors de ma portée. Deuxièmement, je veux agir le plus rapidement possible. Puis je veux trouver des choses. Donc, c'est le processus de la victime, l'accompagnement.
Okay. Vous avez été procureur.
Oui.
Puis vous l'avez dit aux criminels, beaucoup.
Oui.
Puis là, je veux pas vous mêler dans des dossiers qui sont en cours, là. Je comprends ça. Là, vous êtes ministre de la Justice.
Merci.
Mais, quand l'histoire remonte à plusieurs années, puis que c'est la parole de l'un contre l'autre, c'est peu d'éléments de preuve. Comment vous faites comme procureur pour décider si oui ou non vous allez au bâton?
Bien, le procureur et le praticien de justice qui doit vraiment regarder la preuve de façon extrêmement froide, ce qui peut paraître difficile justement pour les victimes quand on les rencontre, il faut l'évaluer. Mais je pense que là où on en est, c'est qu'il faut comprendre, et là c'est peut-être une question d'éducation, une question de formation, puis aussi d'information pour les victimes, pour qu'elles comprennent bien le rôle du procureur. Vous savez, j'ai rencontré plusieurs victimes d'agressions sexuelles. En violence conjugale, c'était la même chose, parce qu'il y a une forme de tribunal spécialisé en violence conjugale à Montréal. Il y a deux salles là, qui, au sixième étage où j'ai pratiqué également, qui en font partie. Souvent, d'accompagner les victimes à travers le processus et de leur faire comprendre comment ça fonctionne, c'est une grande partie de la réponse au-delà du résultat. Mais oui, il faut comprendre. Puis vous savez, on l'a fait, hein, les tribunaux au fil des années, puis là, je ne veux pas faire de parallèle ou de comparaison, de dire que les victimes sont des enfants, c'est pas ça que je veux dire, mais les tribunaux se sont adaptés au témoignage des enfants. On a compris que pour les raisons de propres à cette catégorie de personnes-là, les témoignages sont différents.
Mais ma question, là, pour être bien simple, là, est-ce que ça prend une victime parfaite pour obtenir à tout le moins au départ, une accusation?
Non, il faut pas que ça soit ça. OK? Il faut comprendre le contexte de la violence conjugale. Puis ça, je vous dis que la psychologie est importante, la formation est importante. Les réactions de la victime, hein, dans une victime ordinaire, on va dire pourquoi elle n'a pas fui, pourquoi elle n'a pas appelé la police immédiatement, ça peut faire partie des jugements. Donc, là où il faut changer les mentalités, c'est pas dans les lois, mais c'est dans les critères d'appréciation de la crédibilité.
Mais pourquoi on laisse pas plus souvent le juge ou la juge apprécier la preuve? Autrement dit, pourquoi on va pas de l'avant devant le tribunal et la juge ou le juge va pouvoir apprécier la preuve en disant ça part, ça tient la route, ça tient pas la route?
Ouais, là, vous allez peut-être avoir de la misère à me convaincre de laisser tomber le système de filtration qui est...
C'est pas de le laisser tomber. Je dis juste que parfois...
Ouais, mais là, c'est peut-être qu'on pourrait dire qu'en matière d'agression sexuelle, on ne fait pas de système de filtration puis on va directement dans les tribunaux.
Non, pas systématique.
On risque de... Oui, mais à ce moment-là, la barre, on la met où? On la met où, la barre, à ce moment-là? C'est que...
Bon, vous dites la perception que beaucoup de gens ont. Quand on décide si on accuse ou pas, les procureurs ont une question d'orgueil et veulent avoir la meilleure note de rendement. Si j'accuse, c'est que je suis convaincu à 125 % que je vais le faire condamner. Dans d'autres cas où je pourrais peut-être y aller, mais je ne suis pas certain à 125 %, j'y vais pas. Autrement dit, ma question, c'est est-ce que le DPCP tient compte des statistiques de performance de ses procureurs, puis il y en a qui ne veulent pas perdre la face?
Ben, écoutez, moi, quand j'étais là, il y a à peine 2 ans, jamais on a tenu des statistiques sur mes performances, puis jamais on m'a donné de statistiques de performance.
On vous a jamais dit perdu, pas gagné.
Absolument pas.
Il n'y a personne qui note
non,
ça.
Non, moi, ce que j'entends, ce que j'entendais, puis ce que je voyais de mes collègues, c'était le souci de faire en sorte que la victime ne passe pas à travers un processus où on a, nous, comme procureurs, la conviction qu'il n'y aura pas d'aboutissement. Donc, il y a le souci de ne pas victimiser une seconde fois à travers le processus, et les procureurs ont cette notion là de dire, écoutez, si moi, vous n'arrivez pas à passer la barre de ma conviction à moi, qui est beaucoup plus basse que celle du tribunal, c'est certain que le tribunal n'arrivera pas à une condamnation. Est-ce qu'il y a des effets pervers, peut-être, mais c'est, je vous le dis, moi...
OK, mais mettons que je veux être juge, là. Oui. Mon ambition cachée, c'est d'être juge. Est-ce que mon score comme procureur de la Couronne va être évalué, va être pris en compte?
Absolument pas. Absolument pas.
Non?
Non, absolument pas.
Donc, quelqu'un qui gagne tous ses procès a autant de chances que quelqu'un qui en gagne la moitié.
Il n'y a pas de code de performance à la couronne. J'ai jamais été évaluée. Moi, quand j'ai eu des évaluations, puis je vais parler de mon expérience personnelle, c'est la seule que je peux décrire. J'ai jamais eu de code d'évaluation à la performance. On m'a jamais dit, écoute, Sonia, tu gagnes pas assez de dossiers. On t'en a donné 200 cette année, puis t'en as perdu 150. Non, pas du tout.
OK. Mais pourquoi c'est si long avant que ça aboutisse? Bon, on vous donne un exemple, là, qui est pas encore dans les procédures.
Excellente question.
OK. On a pris les enquêtes internes du SPVM, ça fait plus d'un an de ça. On a donné ça à une escouade mixte de tout le monde, la Sûreté du Québec qui chapeaute ça. On n'entend parler de rien. Coudonc, y trouve-tu quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui va être accusé au criminel? Mais ça se fait qu'il se passe à rien.
Ben, vous avez peut-être l'impression qu'il se passe rien. Je
ça fait plus d'un an, là. Il y a la gang qui sont, il n'y a pas un dossier en un an et plus qui est sorti.
Mais ça, on est encore dans la foulée de ce que l'arrêt de Jordan disait, des délais judiciaires, de l'accessibilité, ce sur quoi, moi, je veux travailler à court et à moyen terme. Donc, on est dans un autre sujet, si vous voulez, mais plus vaste.
Et pourquoi c'est long?
Il y a une multitude de raisons pourquoi c'est long, mais tous les cas sont individuels. C'est difficile pour moi de faire un diagnostic. Mais en matière d'agression sexuelle, particulièrement, Là, ça a été une des...
On manque-tu de procureurs? Est-ce qu'ils sont trop frileux? Est-ce que ça prend trop de temps? On va chercher tout le temps des suppléments d'enquête? Moi, ce que vous allez dire, c'est une comparaison affreusement démagogique. Mais je regarde le commissaire Mueller aux États-Unis. Ça fait un an et demi qu'il est là. Il a fait condamner je ne sais plus combien de personnes. Il y a des gens qui sont en dedans. Il a fait des ententes de gens qui acceptent de collaborer avec la justice puis de témoigner. C'est quand même pas rien, là. C'est les États-Unis, c'est la Russie, puis c'est une enquête d'entrave. Comment ça se fait qu'eux autres sont capables puis que nous autres, là, ça s'étire.
Mais parce que probablement qu'ils ont mis des moyens particuliers. Puis un des objectifs des discussions de cet après-midi, quand je vous parlais d'objectifs plutôt que de discuter d'un moyen, ben c'est certainement l'accélération du traitement de ces plaintes, ce type de plainte-là, parce qu'on sait que dans le temps est crucial, surtout pour les victimes dans ce type de plainte-là, justement, hein, que ce soit en agression sexuelle ou en violence conjugale, où là les pressions sur la personne peuvent être grandes, peut-être même la porter à abandonner sa plainte. Il faut éviter ça. Et un des objectifs des tribunaux spécialisés au sens large, c'est d'accélérer le processus judiciaire. Puis j'ai rencontré des regroupements aussi de femmes violentées, qui représentent des femmes violentées, qui parlent aussi d'une espèce de fast track. Donc, ce sont toutes des choses qu'il faut examiner. Mais pourquoi c'est si lent au sens large dans le système judiciaire? C'est parce que le système judiciaire craque de partout, déborde, et c'est ce qui nous a amené à des délais judiciaires qui ont été sanctionnés par la Cour suprême, et ce sur quoi il faut effectivement travailler. Mais ça s'attaque par une multitude de façons. La modernisation, déjà, vous le savez, au palais de justice.
On s'entend qu'on est dans les pierres à feu.
Absolument. Là, moi, des fois, j'étais transférée de salle de cour du troisième au quatrième, puis j'attendais 45 minutes que le dossier de la cour me suive. 45 minutes dans une journée, ça a l'air très peu, mais sur le long terme, ça fait des délais.
Mais là, je ne veux pas vous rappeler votre passé à la commission Charbonneau volontairement.
Non, vous allez le faire.
Indirectement. tu dis, mais au Québec, là, puis je sais que la justice... les faits, mais tu as toujours une perception.
Oui.
Tu dis là, des gens connus, ça traîne, c'est long, il y a bien des plaintes, une accusation, mettons. OK. Dans le cas de la police, puis là, il y a des gens, des hauts gradés qui sont visés par les enquêtes. Tu dis, tabarouette, ça aboutit pas. Au Québec, dans les procès, ou l'UPAC, je sais que c'est pas vous qui êtes responsable, mais là, tu as le boss par intérim qui nous explique qu'il y a de la misère à recruter, puis que l'esprit commence à avoir un peu d'allure. Tu dis, c'est vrai qu'ils ont pogné Vaillancourt. Nathalie Normandeau, ça fait des années que ça dure. Jean Charest, Marc Bibeau, l'enquête continue. C'est comme si au Québec, là, tu sais, difficile d'arrêter quelqu'un de high profile.
Bien, dans la perception, vous avez raison.
Perception, c'est ça. On les regarde aller, tu dis, coudonc, c'est bien compliqué.
Oui. C'est dans la perception, vous avez raison. Mais peut-être que je vais faire une petite parenthèse minime dans mon passé, mais tout en disant que merci d'avoir mentionné que c'est pas sous ma juridiction présentement.
Non.
Parce que, je veux dire, je vais m'attaquer aux problèmes qui le sont, mais il y a aussi le fait que ce type de crime-là, puis on le dit à la commission Charbonneau, hein, les lois peut-être, là, c'est une question de fédéral à ce moment-là. On n'est pas adapté à ce type de crime-là, qui est la corruption, qui se fait de façon fine, puis pensez pas que les gens, un peu comme dans le crime organisé, et le parallèle que je veux faire est le suivant. quand tu es en haut de la pyramide, t'es rarement celui qui se met les deux mains dedans. Donc, quand on parle de corruption, de perception, de non-dit, on le vu à la commission Charbonneau, hein, c'est des non-dits, c'est souvent, ben, on m'a fait comprendre que je n'aurais pas de contrat si je ne contribuais pas. À contrario, c'est pas parce que je contribue que j'en vais en avoir un, mais c'est comme une police d'assurance. Donc, c'est un, quand on parle de crime, de non-dit, de perception, c'est sûr regardez, que la perception, justice criminelle n'est pas adaptée à ça. Ça, c'est clair, j'en suis avec vous.
Mais la perception, OK, je précise, j'insiste, la perception, là, tu dis à la commission Charbonneau, comment ça se fait qu'on n'a pas vu Jean Charest, Marc Bibeau, Vito Rizzuto? Je nomme ces trois-là. Dans la perception, là. Vous allez avoir un argument légal, me dire, pour X raisons, là, on ne l'a pas fait.
Mais je vais vous dire, pour X raisons, on ne l'a pas fait, puis c'est pas parce qu'on a été corrompu, puis c'est pas parce qu'on avait peur de le faire entendre. Il y a plusieurs raisons sur lesquelles je reviens pas, parce que j'en ai parlé à mon amant, puis il y a des choses que je peux pas dire parce que je crois encore au serment, puis j'ai un serment de confidentialité sur mon rôle de procureur.
Vous êtes consciente au niveau de la perception.
Je suis tout à fait consciente, et je l'ai dit, je comprends les attentes, je comprends pourquoi les gens sont déçus. À leur place, j'aurais probablement peut-être la même perception, mais là, il est difficile pour moi, vous comprendrez, de commenter, parce que de l'intérieur, moi, je les connais, les raisons. Je sais qu'elles sont justifiées, qu'elles se justifient, mais je suis attachée. Là. Okay. Je suis attachée, je peux pas en parler.
Là, je vais vous parler d'alcool au volant. Parce que des avocats de Toronto, là, je me suis demandé, est-ce un effet de toge avec un ventilateur? Là, quand expliqué, puis là, je vais le rappeler pour nos auditeurs rapidement, qu'avec les changements à la loi qui sont entrés en vigueur à la fin de l'année, où on sait qu'un policier peut nous intercepter maintenant sans motif valable, c'est-à-dire après ça, nous demander de passer le test, là, dans le cas qui est soulevé par des avocats à Toronto, là, c'est que ça voudrait dire que moi, je pars en auto, je conduis, ma conjointe est là, on s'en va dans un bar, elle est chauffeur désigné, donc elle ne consomme pas pour le retour, et que la loi telle que rédigée, puis une avocate qui m'a dit ça, confirmé ça ce matin, fait que si moi je consomme, je dépasse la limite légale, je sors du bar, la police peut m'intercepter, même si c'est pas moi qui prends le volant. Croyez-vous à ça?
OK. Bon, là, vous allez me permettre une mise en garde parce que j'ai pas le choix de la faire. Vous comprenez que je suis ministre de la Justice.
Je sais.
Donc, je suis théoriquement la grande patronne des juges qui vont être amenés à interpréter cette disposition-là. Et vous savez que tout ce que je vais dire pour être
retenu contre vous.
Ben, retenu contre moi ou utilisé à tout le moins comme une opinion juridique du ministre de la Justice. Hein. On s'entend là, que vous m'amenez dans un endroit. Puis quand je dis ça, là, c'est pour dire aux gens qu'habituellement, j'ai pas peur de mes opinions. J'en ai naturellement une, mais c'est difficile pour moi, avec le chapeau de ministre de la Justice, de m'en aller dans cette voie-là. Mais, ceci étant dit... Oui. Il faut regarder la loi comme elle a été écrite. Hein. L'objectif, le préambule du gouvernement fédéral est de dire qu'écoutez, citoyens du Canada, conduire est un privilège. Conduire avec les facultés affaiblies est un crime grave qui a un taux de mortalité élevé. Donc, nous, gouvernement fédéral, et ça, c'est écrit dans le préambule de la loi, on a décidé de mettre l'accent là-dessus. Et c'est bien dit, parce que je l'ai lu, le cas de figure, puis je vous ai entendu en discuter ce matin, le gars qui s'en va au bar, puis que c'est sa femme pourrait le ramener, puis qu'il a bu 2 heures après. Ben, c'est bien écrit dans la loi qu'effectivement, les policiers peuvent intervenir s'ils ont des motifs. Donc, c'est faux de penser qu'au Canada, on a aboli le fait que les policiers doivent avoir des motifs raisonnables et des soupçons avant d'intervenir. Ça, c'est pas vrai, parce que de toute façon, le fédéral sait que ça ne passerait pas la barre de la Cour suprême. Alors, ça n'a pas été aboli. Les policiers doivent encore avoir des motifs. Mais c'est bien écrit également dans la loi que nul ne peut être condamné s'il a commencé à boire après la conduite. Donc, ça repose effectivement sur la preuve. Ça repose sur la crédibilité de la personne. Et là, les tribunaux feront leur travail. Et là, je vais me permettre de dire que c'est le seul commentaire que je vais faire.
OK. Est-ce que je comprends si c'est une question d'interprétation de cette nouvelle disposition?
Oui, puis peut-être que les tribunaux trouveront qu'elle a un certain effet, mais ça va être à l'usage, ça prendra un cas de figure particulier. Mais
juste revenir sur un point que vous avez fait. Moi, j'ai compris depuis le début, puis vous me dites que c'est pas ça. Là. Je m'en vais en auto, là. La police, mettons, m'arrête pour vitesse. Ou, je sais pas, un stop qui est pas fait. Elle n'a pas besoin d'un motif de penser que je suis en état d'ébriété pour me demander de l'alcotest. Ils peuvent me demander de passer l'alcotest avec la nouvelle loi, non?
Ben, en tout cas, moi,
Vous faites pas cette même lecture?
Ce que je vais vous dire, c'est que je vais y mettre un bémol parce que je n'ai pas vu ça, mais ça ne veut pas dire que ça n'y est pas. OK? Je vais le faire comme ça parce que vous comprendrez que je n'ai pas étudié le projet de loi 546 au complet avant de m'en venir ce matin, là. Mais je savais qu'il y avait cette provision-là, mais je n'ai pas compris ça. Par contre, vous devrez comprendre que si on parle de mesures administratives et que le policier qui pourrait faire une suspension de permis ou retirer le permis ou remorquer le véhicule, ça, c'est de juridiction provinciale, ben là, on n'est plus dans la même ballgame, mais là, on parle de privilèges puis de mesures administratives. Okay. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est plus complexe, ça ne l'air, mais les tribunaux vont faire la part des choses comme ils l'ont toujours fait. Là.
Bon, ben là, j'ai plus de temps. Fait que je vais vous réinviter pour parler de la francophonie canadienne, des relations canadiennes, puis un peu d'immigration. Vous êtes sur le dossier aussi, je pense.
Non, pas du tout.
Vous touchez pas à ça?
Non, c'est mon. Ben, je vais y toucher en périphérie comme ministre de la Justice.
Mais pour inclure la clause non-obstant d'avance, là, pour.
Ben, comme ministre de la Justice, j'aurai les discussions appropriées avec mon collègue, mais c'est lui qui porte le dossier.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci, la ministre de la Justice et autres, Sonia Lebel, 9h40, on fait la pause et on vient.